que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir, je sais pas si ça marche, ton micro, réessaye s'il te plaît.
Ouais, je crois que ça marche.
Et non, ça marche pas, moi je t'entends pas dans mon casque, c'est pas grave. Donc ce soir, notre émission va être consacrée en grande partie, évidemment, à ce, je sais pas comment dire, cette espèce de séisme, même si on avait été quand même préparé un peu mentalement, hein. Et puis voilà, dans les discussions qu'on pouvait avoir aussi de ci de là, sentait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais l'ampleur de la catastrophe était pas aussi prévisible. On va essayer pas trop de faire du commentaire électoraliste, même si on y viendra un peu, parce qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes en termes de tendance. On viendra aussi un peu sur notre département et sur la région, parce que quand même assez effroyable de voir que l'ensemble des circonscriptions ont placé à leur tête un candidat Rassemblement National. C'est une première. Même, alors, ici, évidemment, c'est pas du tout un département progressiste, même s'il y a pu avoir dans l'histoire certaines orientations. Mais normalement, c'est un département de droite classique qui sert ses baronnies et ses affidés avec fidélité. Et qui renvoie bien l'ascenseur avec, on va dire, des groupes sociaux qui sont bien marqués. Ici, les viticulteurs, là, les agriculteurs, de l'autre côté, la bourgeoisie terrestre, terrienne, immobilière des villes, et enfin, une bourgeoisie commerçante aussi. Enfin, normalement, des choses qui sont bien marquées et qui, là, semble-t-il, ont une espèce de petite radicalisation, mais on y reviendra. La première chose qu'on pourrait dire quand même sur ces résultats, c'est bien sûr l'effondrement, la destruction, la néantisation, l'éradication du camp macroniste.
On va pas s'en plaindre. Hein.
Voilà, qui démontre bien la supercherie qu'a pu représenter à la fois cet homme, d'une part, et puis ce qu'il incarnait d'autre part. À la fois, la Macronie n'a jamais été, selon la formule élégante de Rachida Dati, un rassemblement de traite de gauche et un rassemblement de traite de droite. Il y avait aussi, bien évidemment, à l'intérieur de ça, des entrepreneurs politiques, hein, des gens qui font de la politique comme une profession et qui savent bien repérer les choses. Et puis, y avait cet individu qui méritera certainement une analyse plus longue sur sa personnalité, sur son rapport au réel.
Il faudra besoin d'un psychologue, un psychiatrique.
Ouais. Mais c'est, ouais, psychiatre, peut-être, ouais. C'est aussi le grand marqueur d'une certaine élite.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qui a la possibilité et la préhension de croire que le monde
lui appartient.
Voilà, et surtout le monde n'est pas un ensemble de rapports sociaux. Et que ce n'est juste une capacité de décision, et que ensuite les autres
de gestion.
Voilà, et de gestion, et que les autres suivent, et que la prime doit se faire au plus intelligent et au plus compétent. Cette compétence et cette intelligence n'étant reconnue, on ne sait pas vraiment par qui ni par quoi. Il y a la masse des gens, et puis il y a cette petite élite qui est susceptible de comprendre et le monde et son fonctionnement, et qui de toute façon est là pour diriger et pour commander. Puis ensuite il y a la capacité évidemment à embobiner les gens. Alors ça, c'est évidemment le banquier d'affaires et le commercial, hein, c'est-à-dire que à quelqu'un on va dire quelque chose, et puis de l'autre côté on va dire son contraire, quoi.
J'ai envie de rappeler quand même ce qui s'est passé depuis 2017, mm-hmm. sa première élection. Il y a quand même eu des choses. On avait eu un quinquennat d'Hollande, rappelez-vous, qui était une catastrophe aussi. Hein, et c'est lui, d'ailleurs, Hollande, qui a produit ce Macron. Hein. Et Hollande, c'était une catastrophe, en ce sens que, rappelez-vous, il était vraiment au service du capital, de A jusqu'à Z, avec la loi travail, qui a eu quand même des répercussions importantes au niveau des luttes sociales. Et puis, il y a eu ce Macron qui est arrivé, et puis là, ça a continué de plus belle. Hein. Il a continué, d'ailleurs, la loi travail. On a eu la loi travail version 2.
Il y a eu les ordonnances, hein, c'est-à-dire la capacité de transformer les capacités de négociation à l'intérieur des entreprises. Ouais. Puis et la baisse des APL.
Oui,
ça a été les deux premiers éléments qui étaient extrêmement marquants, je crois.
Oui, et puis il y a eu... De fait, ce mec-là, il a cassé aussi les relations qui existaient entre l'État et les syndicats. Il s'est foutu véritablement du syndicalisme. Il a été méprisant tout le temps, on peut le dire. Et le summum, ça a quand même été la lutte des Gilets jaunes. Hein, où là, il y avait la seule réponse qu'il y avait, c'était la répression. Et une répression sévère. Je ne sais pas ce que va faire l'extrême droite quand elle sera au pouvoir, si elle y est. On va y revenir tout à l'heure. Mais il faut se rappeler quand même que ça a été horrible. Hein. Depuis la loi travail, d'ailleurs, où il y a eu des déborgnés, comme c'est pas permis, quelques décès, d'ailleurs, dont on a peu parlé. Et puis, au niveau des Gilets jaunes, ça a été vraiment terrifiant. Donc, ce qui se passe là, finalement, quand on regarde bien... Moi, ça ne me gêne pas du tout que la Macronie s'écroule. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a aussi quelque chose qui est oublié dans les médias, mais c'est parce que ça existe avant. C'est la Macronie, d'ailleurs, qui l'a cassé. C'est la droite qui... On le voit chez nous. Hein, la droite n'existe plus quasiment. Les LR, c'est vraiment... c'est depuis longtemps. C'est Macron qui a fait le boulot au départ. Et qui a continué. Donc effectivement, qui en bénéficie, c'est effectivement le RN, même si on peut dire, quand on regarde les chiffres, 10 millions de votants pour le RN, ça fait mal, ça fait un tiers de ceux qui votent, tout de même, c'est quand même énorme. Mais bon, c'est complètement explicable. Hein,
C'est énorme, mais paradoxalement, c'est moins... qu'à l'élection présidentielle, puisque à l'élection présidentielle, au second tour de l'élection présidentielle de 2022, ce sont 12,7 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen.
Oui.
Attends,
on verra au second tour.
Voilà, alors, ce qui veut dire que la réserve de voix est somme toute assez faible, puisque la participation Pour une législative, elle a été élevée, voire très élevée. Elle est, comment dire, la plus élevée depuis 1987.
Ouais.
Ce qui veut dire que pour aller rechercher ces 2 millions de voix qui pourraient permettre d'arriver à la majorité absolue, ça va être compliqué. En fait, je crois que c'est vraiment le principal enseignement de ce scrutin, puisque nous, on le voit pas trop par le biais politique, même si on aurait des choses à dire sur l'histoire politique, mais c'est un peu saoulant et ça nécessite d'avoir des références. Nous, ce qu'on peut voir, c'est par le biais social. C'est-à-dire que, en fait, le groupe social qui va nous faire basculer dans quelque chose de potentiellement horrible, c'est les bourges. C'est-à-dire que si les bourges, qu'ils soient petits ou gros, alors, quand on parle des bourges, rassurez-vous, camarades, on a dit, hein, et on a vu, 92% de la population laborieuse en France gagne moins de 4000 euros. Ça reste à 4000 euros par tête, hein, pas par foyer fiscal. Hein. 4000 euros, on pense qu'on peut à peu près s'en sortir, quoi. Et donc, c'est cette partie-là des 8-10%, voire des 0,1-0,2% qui, effectivement, ne veulent pas partager, veulent conserver leurs privilèges et leurs prérogatives et, effectivement, sont susceptibles d'adouber tel ou tel candidat ou tel groupe qui va défendre le ou leurs intérêts. Et cette partie qui pouvait exister dans la Macronie, voire dans la droite ou dans la gauche, on va dire raisonnable, semble-t-il, refuse pour le moment, comme on l'a vu depuis quelques heures, de s'engager fermement pour un vote contre le Rassemblement national.
C'est évident. Ça. Et de toute façon, je pense que ce patronat, on peut parler de patronat.
Ouais, ou de classes d'encadrement. Ouais,
classes d'encadrement qui sont propriétaires des moyens de production ou qui font que le capitalisme se porte relativement bien en France, eh bien, en fait, je pense qu'ils sont en train de choisir le RN. Ils ont choisi le RN depuis. Alors, ça a commencé par les médias, hein, puisque maintenant, on peut dire que pour avoir des trucs dirons-nous de gauche ou sociaux, ou etc., c'est difficile. C'est vraiment difficile. France 3, peut-être. Bon, et encore.
Ouais, encore, France 3 Région, ouais.
France Info, n'en parlons pas. Hein. C'est moins pire, peut-être, mais c'est moins pire que BFM. Mais bon, on l'a vu encore récemment avec leurs histoires d'exclusion de gens qui faisaient de l'humour à l'antenne, qui n'ont pas, ça pas passé. On en est dans une situation où, effectivement, la bourgeoisie a pris le pouvoir au niveau des médias. Et ça, c'est important, parce que c'est quand même par là que passe toute... toute la merde, quoi.
C'est ça. Enfin, ce qui va participer à la promotion, pour le coup, d'une idéologie. Et une idéologie, en philosophie, ça veut dire une représentation du monde. C'est-à-dire que on a souvent dit que, bon, soyons clairs, hein, nous sommes en France, donc il y a une partie des gens du vote Rassemblement National qui sont des racistes, des gros cons et des gros beaufs. Mais ça, on va dire, on en a tous dans nos familles. Normalement, on arrive à peu près à les gérer, quoi. Faut les éloigner de la bouteille de Ricard. Et puis, si jamais il commence vraiment à parler trop fort, bon, ben, on lui dit, c'est bon, ça suffit, tu vas à la sieste, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est que il y a eu une partie, notamment du monde ouvrier, qui s'est reporté sur les thématiques du Rassemblement National parce qu'ils ont assimilé le fait qu'on ne pouvait pas changer de cadre et on ne pouvait pas changer les règles. C'est-à-dire que le vote Front National est aussi un vote de renoncement à la transformation des conditions de l'existant. Et en conséquence, quand on a décidé d'abdiquer sur la transformation de l'existant, c'est-à-dire de ses conditions de vie réelles, eh ben, on va chercher soit à prendre un petit peu de ce qu'on pourrait améliorer sur d'autres, ou de développer une vision du monde qui est soit une vision du monde d'assiégé, ou soit une vision du monde qui fait qu'il y a un bouc émissaire, quoi. Oui. Et donc, vraiment, le vote Rassemblement National dans un, comment dire, un espace social ouvrier, travailleur, pauvre même, c'est la traduction en termes électoral, d'un renoncement à la transformation du monde, quoi. Et ça, c'est clair, parce que le Front National ne propose absolument pas de changer quoi que ce soit quand il propose des choses, parce qu'il y a aussi quelque chose qui va être intéressant, et ça c'est plutôt pas mal quand on regarde la presse internationale. Il faut parfois aller chercher d'autres sources d'informations, pas que sur Internet, mais aussi sur le papier. Depuis 36 heures, 24 heures même, quand on regarde la presse internationale, c'est très 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 sévère pour Macron et compagnie. Et c'est très très très, inquiétant en termes de comment la France va être considérée dans les prochaines années. Et pour le coup, là-haut, il y a encore visiblement des journalistes, alors peut-être qu'ils ont échappé au truc. Et il est clair que le Rassemblement National et son programme économique, en tous les cas pour ce qu'on arrive à en comprendre, ça va être une catastrophe, et ça risque de se casser la gueule assez rapidement, puisque à la fois il y a un problème de compétences.
Ouais. Enfin, je vais te dire après quelque chose. Hein.
Ouais. Il y a vraiment un problème de compétences. Il n'y a pas beaucoup de bons fonctionnaires, et les choix et les choses qui sont faites. Donc il va y avoir là une interrogation sur la capacité de la machine étatique à se mettre au service. C'est incohérent. C'est-à-dire ici baisser la TVA, là essayer de sortir du marché européen de l'électricité, de l'autre pas voter la PAC mais quand même renlever les dérogations, enfin ça va être quand même très 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 compliqué. Il y a la question internationale, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de au cadre du Rassemblement National qui sont pieds et poings liés à des forces et à des ingérences étrangères, notamment par le biais du pognon.
Oui, la Russie, par exemple.
Par exemple. Donc, il va y avoir quand même des problèmes qui vont se poser d'ordre strictement matériel.
Alors, par rapport à ce que tu as dit, je voudrais revenir sur quelques trucs. Le premier, c'est le fait que, effectivement, une partie des ouvriers, de la classe ouvrière, des petites gens aussi, dirons-nous, qui ne sont pas forcément ouvriers, ont voté Front National. Mais la plupart du temps, ont voté Front National, ont voté RN.
Oui, bon.
La plupart du temps, c'est par peur qu'ils le font. Ils ont peur, ces gens-là. C'est bon, et le RN, il est là pour, pour leur dire, on va s'occuper de vous. On va faire en sorte que... Ensuite, la classe ouvrière en question, les pauvres gens, etc., les petites gens, tout ça, ils font aussi comme moi, c'est-à-dire ils votent pas aux élections, pour beaucoup d'entre eux. Parce qu'on parle de... Oui, ça a augmenté, on en est à 2/3 des votants. Si tu ajoutes, il manque 1/3, donc ils votent pas. Hein. Et puis il y a ceux qui sont pas inscrits.
Ou mal inscrits.
Il y a ceux qui n'ont pas le droit de voter.
Les étrangers,
par exemple. Donc, on en est loin d'être dans une situation aussi catastrophique qu'on veut nous le faire croire. Même si, effectivement, s'ils prennent le pouvoir, alors là, effectivement, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais il va y avoir des choses.
Alors, je suis en désaccord avec toi sur la focalisation sur la peur. Je pense que c'est un élément très important dans le vote. Effectivement, dans la plupart des coins, on a voté, il se passe rien. Et c'est une perception du monde qui est faite notamment, et que les gens qui sont différents, comme les Noirs et les Arabes, pour être tout à fait clair, ou les musulmans, ou les gens qui s'habillent différemment, qui ont les cheveux roses, ou qui mettent des djellabas, ça provoque une interrogation et une peur. Mais je pense qu'il y a quelque chose de supplémentaire dans cette séquence électorale, à laquelle a participé aussi Macron et la Macronie, c'est qu'on a perdu toute notion de rationalité. C'est-à-dire, un des grands comment dire, une des grandes œuvres de la Macronie, c'est que le langage ne veut plus rien dire. Et c'est que la rationalité a disparu du discours politique et de la représentation du monde. J'en veux pour preuve, je discutais avec des électrices et des électeurs de Rassemblement National dans mon quartier, et je leur demandais de me citer des jeunes, hein, par exemple, quelles mesures ils avaient pu retenir pour les mettre en avant, quoi. Qu'est-ce que ça leur, qu'est-ce qu'ils pensaient? Et la plupart d'entre eux étaient incapables de me dire des mesures réelles et claires. On me parlait de perception par rapport aux réseaux sociaux, perception par rapport à TikTok, le fait qu'on comprenne ce qu'ils disent et que de toute façon, quand même, la gauche, c'était l'extrême gauche, quoi. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, où la rationalité est absente de la représentation du monde, c'est difficile. J'en veux pour preuve, là, je regardais dans notre région les résultats. Et c'est quand même... c'est très, très marqué, quoi. Hein. C'est vraiment très, très marqué, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne des centres urbains, ça déglingue. Et donc, on a des espaces où on va avoir, par exemple, prenons Vandières, qui est un village que je connais bien. Salut Tata. qui est fortement marqué par une activité professionnelle liée autour du champagne et de la viticulture. C'est extrêmement clivé, avec un peu de commerce. C'est extrêmement clivé, c'est-à-dire que soit on possède les vignes, soit on travaille dedans. Et donc, ça va créer vraiment des relations sociales très très fortes et des disparités de revenus vraiment énormes. Donc, en conséquence, on a des oppositions qui sont fortement marquées. C'est-à-dire, on a celui qui embauche, celui qui paye, et celui qui se casse le cul dans les vignes pour pouvoir faire pousser le raisin et payer le 4x4 et les vacances du patron. Eh ben, on est à 62% pour le Rassemblement National. C'est-à-dire qu'on a un interclassisme qui est vraiment hyper, hyper, hyper fort. Deuxième exemple sur la rationalité, on a deux candidats sur les circonscriptions qui sont des candidats qui n'existent pas. Par exemple, sur la première circonscription de la Marne, celle qui fait le centre-ville, ici, on a un individu qui représente le RN et en même temps LR. On a un individu qui est haut fonctionnaire à Bruxelles et qui n'habite pas sur la commune et qui n'a jamais pris la parole, n'a jamais développé. Donc les gens se sont rués sur lui alors qu'il n'a absolument rien à proposer. Enfin, on ne sait même pas ce qu'il pense par rapport au problème de la circonscription, mais sur une étiquette politique. Ce n'est pas du tout ce qui se propose. C'est la même chose pour Épernay. Par exemple, vous avez un député qui est là en place, une population, donc Épernay avec les villages autour, et on a un individu qui s'appelle Maxime Michelet, qui est, qui vient de Belgique, de Bruxelles. Absolument rien contre les Belges. Hein. J'espère d'ailleurs qu'ils vont battre l'équipe de France. Comme ça, moi, ça nous fera les vacances. Et qu'on pourra prendre leur revanche. Pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on a des individus qui vont absolument pas voter pour leur intérêt. On imagine un RN sur Épernay pendant les vendanges, va faire quoi? Va interdire le travail des clandestins? Il va mettre des OQTF et expulser tous les clandestins qui vont venir travailler dans la région? Ça va être un peu compliqué pour le ramasser, votre raisin.
Il n'est pas que les raisins, d'ailleurs.
Et pas que les raisins. Voilà. Faut-il le rappeler? C'est 100 000 personnes qui viennent travailler, dont environ, pour les estimations les plus basses, hein, 6 à 7 000 personnes qui travaillent au black dans des situations irrégulières.
Bien sûr.
Donc, voilà. Je veux dire, il risque d'y avoir quand même un fracas sur le mur de la réalité. Et puis d'un autre côté, alors hormis les traditions, on a quand même une représentation de la gauche qui, elle, extrêmement marqué sur les centres urbains et au niveau de sa composition sociologique, il y a du fonctionnaire, de l'ouvrier, du fils d'immigré, etc. C'est vraiment, on va dire, deux France qui, quelque part, sont en opposition. Alors qu'elles ont tout à gagner pour pouvoir se réunir contre cette classe bourgeoise qui détruit les services publics, menace l'ordre climatique, empêche les gens de se nourrir, de se loger et de vivre correctement, trouve des moyens de se foutre sur la gueule, alors qu'on a vraiment quelque chose qui va émerger. Alors, est-ce que il peut y avoir un retournement de situation ? Non. C'est clairement pas possible au vu des premiers éléments. La marche est trop haute. Est-ce que le Rassemblement national peut obtenir la majorité absolue ?
Ça, on verra. On ne sait pas.
C'est peu probable. Hein. Parce que il faudrait qu'il gagne près de 60. J'ai regardé, c'est 72% des duels qui sont là, alors que on a vu que du côté gauche, tout le monde bougeait, tout le monde se désistait. Donne des choses très particulières. Par exemple, on a le candidat de la LFI qui se désiste au profit de Emmanuel Borne. C'est pas Emmanuel Borne, mais bon, c'est pas grave.
C'est la mère Borne, ouais, qui a été
l'ancien Premier ministre. Et un candidat LFI également qui se désiste au profit de Gérald Darmanin. Ça pique quand même, dire pour aller demander aux gens d'aller voter comme ça, c'est quand même incroyable, quoi. Par contre, de l'autre côté, comme on l'a dit, la réciproque est pas
évident,
est pas tout à fait. Mais ce qui risque forcément de se passer, c'est un blocage véritable des institutions.
Oui, c'est ça qu'on va avoir.
Ouais, avec l'incapacité de dégager une majorité, même relative, à l'Assemblée nationale. Et donc, le maintien d'une équipe, qualifie poliment de technique. Bon, en gros, des technocrates. Hein.
Des technocrates,
c'est ça. Le fait de continuer à faire vaquer les occupations.
Néanmoins, dans ce cadre-là, on va pas en prendre plein la gueule avec des nouveaux...
Ça serait calme.
Trucs de loi, ça va être calme, quoi. Sauf que, peut-être, au niveau de la répression, je pense que là-dessus... ils seront tous d'accord pour nous foutre sur la gueule. C'est je pense, ça.
Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui risque aussi de se passer, c'est que quand le pouvoir est vacant, quand le pouvoir est vide, nous sommes en France. Nous ne sommes pas un pays fédéral comme d'autres organisations comme la Suisse, la Belgique ou l'Allemagne, par exemple, où il peut y avoir des forts relais de pouvoirs locaux avec une grande décentralisation. Ici, on a un pouvoir central très fort, très ouais, autoritaire. Donc quand ce pouvoir est vacant, ça va intriguer et il risque d'y avoir quand même beaucoup de gens qui jettent dessus comme des morts de faim. Et il va y avoir des recompositions politiques qui vont être très très impressionnante.
Ce qui veut dire aussi que dans ce cadre, qui est probable, le Macron va trouver son emploi, il va trouver son créneau là-dessus, puisque c'est lui qui a été élu et il démissionnera pas, hein, c'est évident, il ira jusqu'au bout, hein, je crois pas qu'il va démissionner. Et justement, il va essayer de tirer son épingle du jeu dans cette histoire-là. Mais bon, on verra bien.
Il peut y avoir, je pense qu'on va arriver dans des situations inédites, quoique faut se rappeler que à l'issue de la Seconde République et de la révolution avortée de 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République contre deux candidats, un républicain modéré et un monarchiste. La révolution de 1848, c'est la révolte des ouvriers majoritairement parisiens dans les rues de Paris, un prolétariat qui n'est pas encore extrêmement organisé, mais qui a grandi et a grossi dans les petites fabriques, qui, les armes à la main, va imposer le suffrage universel. Entre guillemets, le suffrage universel, c'est-à-dire masculin, pour les métropolitains, hein, bien sûr, pas pour les filles et pas pour les trucs, les esclaves et les noirs et les arabes, mais c'est quand même un immense pas, puisque la souveraineté devient individuelle et populaire, alors qu'auparavant, on était sur un suffrage qui était au sens. C'est-à-dire qu'il fallait payer pour voter, pouvoir disposer d'un minimum de patrimoine et de revenus, ce qui était en général un gage de responsabilité à la fois morale, intellectuelle. C'est quand vous savez, hein, voilà, quand, à 50 ans, quand on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a renté sa vie. Mais c'était à peu près le concept. <là. rire> C'est-à-dire que si on n'avait pas un minimum de biens, on n'était pas autorisé à voter. Donc, à l'issue de cette révolution, il va y avoir des élections présidentielles. Avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, une répression assez féroce avec la fermeture des ateliers nationaux en juin 1848, où là, la Seconde République marque tout de suite son parti pris, qui est « faut pas déconner, faut pas aller trop loin non plus quand même ». Et en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte va réaliser un coup d'État, le 18 Brumaire, où il va s'arroger l'ensemble des pouvoirs et ensuite se faire couronner empereur. C'est ce qu'on appelle le Second Empire. Cela aboutira 20 ans plus tard à la défaite et à la déclaration de la guerre à la Prusse, oui, à l'Allemagne, toujours les mêmes, et la chute de ce Second Empire en 1871 et la Commune.
Oui.
Puis la répression de cette Commune, la naissance de la Troisième République qui restera jusqu'à 1939 et 1945. Donc, à un moment où il y a des blocages, il y a cette solution autoritaire aussi qui est possible. Et il faut se rappeler que dans la Constitution française, il y a des éléments qui permettent de cela, notamment cet article 16 qui est les pleins pouvoirs pour une première durée de 50 jours. Avec la capacité pour le président de la République de légiférer par ordonnance et par décret, sans consultation du Parlement, mais surtout du Conseil constitutionnel et des corps constitués comme du Sénat. Vous me direz, c'est déjà le cas? Oui. Mais c'est parce qu'il avait, des Playmobil, pour le coup, là, pour pouvoir jouer. Mais là, s'il n'a pas ses jouets, il va être obligé de se débrouiller un peu tout seul. Et étant donné la projection que cet individu a de lui-même, et la petitesse du cénacle qui est aujourd'hui autour de lui, Emmanuel Macron, le président de la République, est un homme seul, un homme isolé, et un homme qui sera de plus en plus seul, puisque les ambitions de se partager la dépouille vont être de plus en plus grandes, et chacun va jouer sa propre carte. Mais c'est pas à exclure, et je pense que dans la deuxième partie de notre émission, on va venir sur nous, peut-être pas nos propositions, parce qu'à la limite, on s'en fout de nos propositions, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait dire et comment on voit les choses pour la suite. En attendant, on va écouter un peu de musique qui est un peu datée, mais qui vaut toujours, en fait. Voilà, ça marche.
Ah ben moi, je sors plus, hein. Ah ben non, hein. Ben à cause de la recrudescence, hein. Ça a drôlement augmenté, la recrudescence, hein. Ah, surtout avec les Arabes, hein. Oui.
C'est à cause de la renaissance, si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a. Alors elle est belle la France, on sait qu'est-ce que je vous dis. C'est à cause de la renaissance, si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a. Alors elle est belle la France.
Alors regardez, Jospin en 5 ans, il a rien fait de bien grand, ni offert, ni affaire. Il nous laisse comme de ronglants, puis Raffarin est pas mieux, hein. Soit dit en passant, c'est kiff qui fait haricot, tout ça c'est du même cajou. Puis leur décentralisation, moi j'en veux pas, voyez déjà avec Tchernobyl et l'Anatole de Moriora. C'est bien joli de changer les élections en kakina, mais les années bitextiles, ils y pensent pas, hein.
Qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance, si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la renaissance, si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Ah, c'est pour ça, moi, la dernière fois fois j'ai voté contestataire. Au moins lui, tient ses promesses, il a les épaules sur terre. Avec lui, l'Europe restera française et chacun sera chez soi. Il a promis qu'il augmenterait le pouvoir des chats. Enfin, je fais des plans sur la gourmette parce qu'on en est pas là. Avec tous les coups en France, c'est sûr que jamais il passera. Sans lui, l'insécurité elle restera dangereuse. Ça, la France est pour aider, hein. Puis le fossé se creuse.
Tout ça, hein, c'est ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Tout ça, c'est ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Ah, puis regardez-moi tous ces feignants qui sont au chômage et après veulent le droit de vote. J'appelle ça du chantage. Leur ami et la CEDIC, c'est un dos de malheur pour la France. Et c'est pas les Français qui y touchent quand on y pense. Entre nous pour le chômage, c'est la sécurité de l'emploi. Dites-moi pas que c'est pas vrai, hein. Dites-le moi pas. Ils le disent à la télé, nous on touche le fond de notre pension et ça aide pas d'être bordé de diplôme, hein. Ça non,
ça,
hein.
Oh.
Ah, ça serait mon beau fils, si,
alors elle est belle, la France.
Et il a pas de diplôme, mais quand même, hein. Ah puis on dit l'Europe, l'Europe, mais ils sont dans les choux à Bruxelles parce que l'Europe ça rapproche les peuples. Qui pareil, mais quand on voit qu'est-ce qui se rapproche entre nous, bah c'est pour les bons, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Non.
Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Ah ouais. Belle, mais jeunes, ce qu'il leur faudrait aux jeunes, c'est une bonne guerre. Ma sœur apprendrait à vivre. Eh, hey, entre nous, on n'était pas si mal que ça en 40. Ah non. Allez, oui, merci. Au revoir d'être venu. Oh, j'aime pas. Oh, comprends rien, cette vieille. Oh, fatigue.
Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Et tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Ah, c'est du vécu, hein.
Ouais, je ne connaissais pas, moi.
Ah ouais, c'est oui, quoi, ouais, oui. Bah c'est sur l'excellente compilation de il y a 10 ans maintenant de Ralph Ron, hein, c'est les Fatal Picard. On salue d'ailleurs notre camarade Geoffroy, là où il est, doit avoir sacrément les boules. D'ailleurs, c'est peut-être par là qu'on pourrait penser la suite, c'est-à-dire que finalement... 20 ans après le 1er avril 2002, nous arrivons à la boucle. La boucle est bouclée. Et nous arrivons à quelque part la défaite, l'échec total, à la fois du mouvement qu'on pourrait qualifier d'antifasciste ou d'antiraciste, et de l'autre une tragédie pour le mouvement qui pourrait se qualifier de révolutionnaire, si lui-même se qualifie de révolutionnaire, puisque aujourd'hui on a donc un front républicain qui va de Philippe Poutou à François Hollande,
Qui peut même peut-être même aller à droite. Il y a certains LR qui
va pousser un peu, ouais, ouais. Peut-être un peu de centriste et tout ça. C'est vrai, il y a des candidats MoDem qui se sont désistés. Je pense à Millienne ou à Bonneterre, hein, dans Seine et Normandie, qui sont des candidats Horizon ou des candidats Horizon MoDem qui se désistent pour appeler à voter à gauche contre le RN. Alors on a beaucoup d'affection pour Philippe Poutou, d'ailleurs on le félicite pour la première fois de sa vie au deuxième tour de quelque chose. Bon, c'est pas gagné, mais
je crois que
ben, on serait ravis de le voir à l'Assemblée nationale, ça c'est sûr, ça serait très sympathique. À 18%, ça va quand même être dur, mais bon, on est très content pour lui. Il leur prend pour 15 jours, pour qu'il soit pas trop fatigué. Mais donc on en arrive à des situations où je pense notamment à Reims, où des camarades avec qui on peut avoir partagé un bout de chemin se retrouvent à faire de la retape pour ce front, et en plus se retrouvent à aller dans des espaces qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, en culpabilisant les gens, soit en leur disant qu'il faut aller voter, alors en général ils sont plutôt bien reçus, ou soit à développer des arguments en expliquant pourquoi le Rassemblement National est raciste. Mais il a pas, ils n'ont pas compris que les gens étaient racistes. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique pourquoi le Rassemblement National est raciste, puisque c'est ça, eux, qui recherchent dans l'expression politique. Et en plus, ensuite, il y a cette espèce d'argument d'expliquer aux gens pourquoi tel truc c'est bien, pourquoi tel truc c'est pas bien, pourquoi tel truc c'est mieux, pourquoi tel truc c'est pas bien. Mais les gens ne sont pas sur du benchmarking. La politique, ce n'est pas la comparaison de services qui sont arrivés. C'est une adhésion rationnelle ou irrationnelle à des camps et à des idées et à des valeurs ou à des choses qui, justement, surdéterminent et créent des formes d'adhésion et des formes d'action collective. Ça, c'est la politique. Donc, c'est pas possible, c'est pas une question, comme on l'a dit tout à l'heure, de rationalité.
De rationalité, tout à fait.
Pour pouvoir, agir avec les gens, les fameux gens qui n'existent pas, il faut être parmi eux et partager intimement leurs conditions de manière pérenne, c'est-à-dire sur la longueur, ou de manière, ponctuelle, mais intense. Prenons un exemple pour être plus clair. Soit tu vis dans les gens, dans les quartiers, dans les espaces, et comme tu as une action sociale ou une action collective, eh ben, les gens te connaissent et te reconnaissent. Ça peut être n'importe quoi, être membre d'une asso, faire des cours du soir, avoir de la solidarité, etc., etc. Ou soit une action ponctuelle, c'est-à-dire que quand il y a un mouvement ou quand il y a un conflit, tu partages l'intimité des gens, et là, effectivement, tu défends des choses qui sont de l'ordre du collectif, et tu expliques pourquoi justement tu te situes à gauche, à droite, sur les côtés, au milieu, en dessous, en bas, mais tu défends une position effectivement de classe. C'est-à-dire que là, il y a d'autres des choses qui sont, qui permettent de rassembler autres. Sauf que à l'intérieur des luttes, à l'intérieur des espaces et à l'intérieur des cadres de vie, il y a absolument plus de présence de militants de rupture et de militants révolutionnaires. Donc forcément ce discours-là, c'est pas en 15 jours qui va se passer, et encore plus d'ailleurs quand on va dans les quartiers et qu'on distribue des tracts. J'ai été hyper choqué par le fait que les militants du dit Front populaire avaient absolument rien à dire aux gens. Ouais. Il y avait vraiment deux mondes qui se rencontraient et qui se connaissaient pas. Surtout que, en plus, 2 jours après, même pas, on va dire 24 heures après, on leur dit et on revient en disant « il faut voter pour le mec de droite ». Là, c'est quand même incroyable. À la limite, si ces trucs-là étaient partis se confronter dans des communes du Tardenois où le Rassemblement National avait fait des cartons, par exemple à Fismes,
57%.
voilà, je crois que c'est 60, hein, même 57.
Ouais, 57. Ouais, 57.
Donc là, peut-être qu'il y aurait des choses à apprendre. On peut aussi apprendre des choses. Et puis, il faut aussi comprendre qu'en général, la victoire de la réaction, c'est toujours et d'abord la défaite du mouvement ouvrier. Et comment ne pas voir que les séries de défaites qu'on a eues, en l'occurrence les deux plus importantes, celle des retraites et celle du mouvement des Gilets jaunes, actent quelque part la victoire de la réaction et du Front National. Alors, simplement, peut-être que aussi on pouvait dire à ces premières victimes ou aux gens qui sont outrés par l'arrivée du défense national, du Rassemblement National, c'est qu'il y a d'autres moyens de lutter que celle du bulletin de vote.
Oui, complètement.
Et que la société, c'est nous. Ceux qui ont fonctionné la société, c'est nous. Et dans les discussions qu'on pouvait avoir avec quelques camarades qui étaient fortement touchés par cette potentialité, c'est de dire que faut se calmer parce que c'est juste que des mecs en costard. Et que c'est pas eux qui vont faire tourner le pays et l'économie, et que à la fin, comme disait l'autre, c'est entre eux et nous, mais c'est un affrontement qui ne se fera pas seulement dans les urnes, et qui se fera que très marginalement dans les urnes. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est effectivement que ces gens-là ont une force avec eux qui s'appelle la force de l'ordre. Et la force de l'ordre, c'est quel que soit l'ordre, qu'il soit juste ou qu'il soit, et c'est souvent plus souvent le cas, injuste.
Oui, tout à fait. Alors justement, par rapport à ça, j'ai eu un truc sur notre liste de diffusion que j'ai trouvé chouette. C'est quelqu'un qui fait partie de l'OCL et qui disait « J'avais le choix, je pouvais aller voter ou je pouvais aller soutenir une grève de femmes de chambre de l'hôtel Radisson Blu du vieux port de Marseille et j'ai choisi évidemment de les femmes de chambre qui sont en grève depuis plus d'un mois. Il s'agit de 13 grévistes d'un hôtel de luxe du vieux port de Marseille, 4 étoiles avec une clientèle internationale extrêmement friquée qui se retrouvait donc, ces grévistes se retrouvaient avec leur soutien afin de faire un piquet de grève bruyant et festif toute la journée. Et c'est ainsi que notre camarade est allé soutenir cette grève et il lui semblait plus important d'aller là que de retourner, parce qu'il n'est pas inscrit sur Marseille, il est inscrit, je crois, sur Douarnenez, et de retourner à Douarnenez pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Il a bien eu raison, effectivement. Alors cette lutte n'est pas nouvelle, pour cause, ça dure depuis plus d'un mois. C'est un sous-traitant de l'hôtel en question, l'hôtel Radisson Blu.
Ouais.
C'est un sous-traitant qui est très connu à Coix, qui est un habitué de ses grèves. Déjà, il y a eu un hôtel Marriott en 2023. Il y a eu Adagio en 2022. Il y a des femmes de chambre qui s'opposaient à la direction de ces entreprises spécialisées dans le ménage des hôtels par des revendications, la plupart du temps salariales, mais aussi des conditions de travail. Et alors, bon, je ne vais pas vous donner les revendications, puisque finalement, ce sont des revendications qui leur appartiennent. S'il s'agit justement des trucs du style le droit à un 13e mois, l'arrêt des remplacements imposés dans d'autres hôtels où l'employeur est prestataire, parfois à l'autre bout de la ville, la diminution des cadences, effectivement, quand on est dans un hôtel et qu'on est femme de chambre, on peut avoir je ne sais pas combien de chambres par heure à faire, et des fois c'est impossible. Alors là, je tiens à vous dire, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur le site papayoux.com et vous pourrez trouver cette lutte avec, entre autres, une demande de solidarité, puisque jusqu'à maintenant, la solidarité a fait que les grévistes, depuis un mois, ont touché quand même, grâce à la solidarité, 75% de leur salaire.
Pas mal.
C'est comme ça qu'ils tiennent, et c'est comme ça qu'ils espèrent tenir encore, puisqu'en face, on l'a vu dans X luttes, les détenteurs des entreprises en question vont jusqu'au bout, tout faire pour que les gens en face crèvent de faim.
Ça va être des grèves dures si on arrive à avoir recours à ce biais-là. Et ça va être, à mon avis, quelque chose d'inédit, enfin de très rare en France, des grèves politiques. C'est probable que dans certaines grosses entreprises, il y ait des nésations ou des comportements ou des pratiques qui se croient désormais tout autorisées et que, en solidarité, il y ait des gens qui cessent le travail. Il va y avoir à l'intérieur de ces espaces et de ces collectifs de travail, justement, des choses qui vont se passer fort. Et je crois que ça va être aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, pour nous, en tous les cas, c'est que l'histoire, elle n'est jamais écrite, qu'elle est en train de nous revenir dans la gueule de manière très très forte, notamment pour des gens de ma génération qui pensaient que l'histoire était un long fleuve tranquille et qu'on s'en était sorti. Faut-il se rappeler que l'histoire de ce pays est violente, c'est-à-dire que tous les 10, 15, 20, 25 ans, il y a des secousses très très importantes, des tremblements très très importantes. Ici, la guerre d'Algérie, la mai 68, etc., etc. Comparativement à ça, 1995, 2002, Et 2006, c'est une récréation. Hein. Voilà, les affrontements entre les classes sont ce rip dur. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une génération de gens qui s'engagent, mais qui s'engagent concrètement. C'est-à-dire qui s'engagent dans les syndicats, dans les regroupements politiques, dans les partis politiques, et qui cessent de penser que la transformation sociale ne se fait sans prise de risque, par l'intermédiaire ou par le filtre de l'Internet, ou par délégation à des groupes politisés. L'histoire et le mouvement social, il implique d'y mettre, non pas sa peau, dans le sens... ça met sa vie, ni héros ni martyr, on n'a pas besoin de ça, mais de se mettre en jeu en tant qu'agent et acteur social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « je veux changer le monde et je me contente d'aller soutenir la lutte de Notre-Dame-des-Landes », ce qui est très bien, mais qui est de fait et toujours une lutte par délégation, ou de soutenir les soulèvements de la Terre et le mouvement des méga-bassines, qui sont aussi des luttes très intéressantes et très importantes, mais qui sont des luttes par délégation. C'est d'abord ici, chez toi, là où tu vis, là où tu bosses, que tu dois t'engager. Et s'engager, ce n'est pas, en tous les cas, de mon point de vue, la manière dont je l'entends, ce n'est pas se mettre au service de gens qui font de la politique, en l'occurrence... ce Front populaire, qui a réussi assez rapidement à remettre la main sur le petit mouvement qui avait commencé à l'issue des européennes, puisqu'il y a eu quelques rassemblements spontanés, ici ou là, des manifestations plus ou moins sauvages, en tous les cas non encadrées. Tout de suite, le Front populaire a réussi à remettre la main là-dessus pour pouvoir le canaliser et s'en servir. C'est normal. Mais donc voilà, ça va être aussi être capable de s'auto-organiser. S'auto-organiser là où on vit et là où on travaille. Donc proposer, en tous les cas, c'est des choses de base qu'on pourrait mettre en avant. Ce qu'on va essayer de voir, si c'est possible de discuter à partir de mercredi, on va attendre que tout ça se décante, parce qu'il y a aussi cette urgence qui nous empêche de réfléchir et qui nous oblige, nous, à nous prononcer. Et parfois, la vitesse, la précipitation, c'est pas forcément la meilleure des choses. Il faut être aussi capable de prendre du recul et d'attendre. On est submergé d'informations, d'attendre, de voir aussi et de relire des choses qui nous paraissent intéressantes pour être dedans. Donc, proposer. La première chose, c'est la solidarité.
Ouais.
Ça va être vraiment très important. La solidarité avec tout le monde, quelle que soit sa forme. La deuxième, c'est la prévention, c'est-à-dire regarder, voir ce qui se passe un peu partout. La deuxième, ça va être l'auto-organisation, parce que effectivement, c'est d'abord avec les gens qu'on va être susceptible de fabriquer des choses qui vont être les plus intéressantes, quoi. Et ensuite, ça va être l'action. Et l'action, ce n'est pas seulement des tracts ou des discussions sans nom, et c'est aussi aller vers les premiers concernés et faire avec les premiers concernés. Comment est-ce possible, et ça je reste sidéré, que des rassemblements veulent défenseurs des étrangers, des personnes en situation régulière ou des gens qui sont marginalisés ou aux extérieurs dans la société prennent leur essence ou se trouvent, se rassemblent Place Royale.
Oui, ça, c'est quand même étonnant. Oui,
ça devrait être dans. C'est sidérant. Il n'est pas sûr que les accueils seraient forcément positifs, mais au moins il y aurait un échange et on apprend aussi des gens. On apprend avec les gens. C'est d'abord dans les espaces et dans les quartiers, alors que peut-être, on n'a peut-être rien à leur dire à ces gens-là. Ça, c'est quand même assez terrifiant. Comment on peut avoir des cortèges qui ont des slogans qui sont totalement auto-référencés? C'est quand même aussi un très très interrogant. Il faut peut-être aussi se poser la question des pratiques politiques qui ont donné la situation dans laquelle on est aussi aujourd'hui, quoi. Le seul mouvement qui a était capable de mettre un peu en branle le pouvoir, c'est le mouvement des Gilets jaunes évident, dans lequel dans lequel il y avait absolument pas ce type de pratique quoi.
Enfin, ouais, voilà. Tout à fait. Là, je pense à l'immigration puisque effectivement ils vont être au centre de la répression. Ils vont être au centre du fait que pour se faire régulariser, ça va pas être possible. Ça l'était déjà pas avant. Sous Macron, et ni sous Hollande d'ailleurs. Bon, là, ça sera de pire en pire, hein, effectivement, mais là, il y a quand même une sacrée solidarité à monter. Et là, il y a, par exemple, j'ai appris qu'il y a le collectif des jeunes du parc de Belleville, donc à Paris, ouais, qui occupe la maison des métallos, qui risque depuis le 6 avril d'ailleurs, et qui risque et revendique le droit et à un hébergement digne. C'est des mineurs, hein, isolés, ouais, hein, mineurs isolés, et ils risquent de se faire expulser, et plus que ça d'ailleurs. Donc ça fait 3 mois qu'ils occupent la maison des métallos, et ils demandent une solidarité. Alors bien sûr, de Reims, c'est trop loin pour leur apporter concrètement sur le terrain, mais on pense à tous nos amis et copains de la région parisienne, c'est important qu'ils y soient.
Et puis, je l'espère, si jamais il y a des mouvements, il faut que ça soit absolument des mouvements offensifs. C'est-à-dire que nous n'avons pas à être défensifs. L'antifascisme institutionnel, il répond toujours à un besoin défensif. Il ne fait pas un programme, mais il fait un rempart. Or, ce qu'il faut pour pouvoir avoir un accès direct avec la population, c'est que eux, la situation présente, ils ne veulent pas la défendre. Ils en crèvent de la situation présente. Ils en crèvent de cette république et de cette société et du capitalisme. Ils ne voient rien à défendre là-dedans. Ce qu'il faut pour justement avoir du commun et partager, pouvoir lutter, faire quelque chose, c'est être dans l'offensive. C'est-à-dire que nous avons le droit d'avoir tout ce que nous voulons et tout ce dont nous avons besoin. Ce pays est immensément riche. Le problème, ce ne sont pas les Noirs et les Arabes ou les éventuelles personnes qui viennent travailler ou qui travaillent en situation irrégulière. Le problème, ce sont les bourgeois, la répartition de la richesse et l'organisation de cette société.
Tout voilà. À fait.
C'est absolument fondamental de le mettre en avant. Et on va le voir et on le verra au cours de ces prochains jours, quelle que soit la couleur politique de l'espace qui est au pouvoir, avec évidemment certaines formules dans le raffinement, certains changements, les gens qui seront là seront les serviteurs zélés de cet ordre social. C'est évident, et c'est prêt, on est prêt à parier l'émission là-dessus, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la nuance et la couleur de cette coalition ou de ce gouvernement, qu'elle soit brune ou un peu rose et vert, ça sera la seule couleur qui comptera, ça sera la couleur du pognon, ça on en est persuadé, et contre ça, je pense qu'on a vraiment des choses à faire, des choses à dire ensemble pour pouvoir, en tous les cas, essayer d'en finir avec cet état de fait. Et il faut le rappeler, en général, les situations de crise, elles ouvrent soit des deux côtés, soit une solution autoritaire, comme celle qui se faisait, soit des situations, en tous les cas, peut-être pré-révolutionnaires, ou en tous les cas, des situations de potentialité de changement. On sait.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.